littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. L'amour avec les robots. Saul Pandelakis.
Eh ben, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup d'être là pour venir écouter cette conférence. Donc, je m'appelle Saul Pandelakis, j'en ai peut-être croisé certains d'entre vous pendant ces 3 jours aux Utopiales. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais remercier donc toute l'organisation, enfin toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce très bel événement, encore une fois. Voilà. Et sans plus attendre, on va parler de sexbots ou de robots pour le sexe, même si l'intitulé de cette conférence est un peu chaste, puisqu'il s'agit de l'amour avec les robots, mais en réalité, on va peut-être plutôt parler de sexualité. Voilà. Alors, pour présenter mon travail et d'où je parle, j'ai toujours beaucoup de mal. Alors, cette année, j'ai décidé de faire ce grand bins de fenêtres dans tous les sens pour essayer de donner un aperçu. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université du Mirail en design. Ça n'a pas tellement de rapport immédiat a priori, mais j'ai aussi une thèse en cinéma sur les héros d'action américains. Je travaille beaucoup sur les rapports entre cinéma et design. Et par ailleurs, j'ai une pratique d'illustration qu'on voit un tout petit peu ici avec le projet Dataro ou les petits dessins que je fais en ce moment pour un projet autour de l'Anthropocène en Corrèze. Et enfin, je suis aussi auteur de fiction et vous avez en bas à droite de l'écran mon roman qui parle un peu de sexbot, même si ce n'est pas son sujet principal. Mais il est évident que la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui m'a fortement aidé à penser aussi ces choses-là dans la fiction. Donc voilà pour la présentation perso. Ensuite, donc le sujet dont on va parler aujourd'hui m'occupe depuis assez longtemps. Maintenant, enfin, j'ai réalisé avec un peu d'étonnement en faisant le calcul que ça faisait à présent 5 ans que je me posais des questions sur les sexbots ou, devrais-je dire, la possibilité du sexe avec les robots, puisqu'on va voir ensemble que les sexbots n'existent pas vraiment, vous le savez sans doute, mais certains signes montrent qu'ils pourraient exister et de toute façon, c'est une clé de pensée absolument exceptionnelle et il serait bien dommage de s'en priver. Alors, je vous montre cette slide un peu dense, aussi pour rappeler une fois encore que la recherche, ça ne se fait pas tout seul. Et dans ce sujet-là, ça a commencé par une collaboration avec Anthony Mazur, qui est docteur en design, qui aujourd'hui travaille à la Haute École de design et d'art de Genève. Et à l'époque, on a décidé de se dire, mais vraiment autour d'un café, comment on pourrait faire pour collaborer. Je travaillais sur le cinéma, beaucoup sur des questions de genre, la place des femmes dans les fictions héroïques, par exemple. Et Anthony était davantage sur des questions de programmes, ce qu'il appelle la pensée des programmes, en humanité numérique. Et on s'est dit, tiens, si on parlait de Eros et Thanatos chez les ordinateurs. Donc ça a commencé comme un délire. Puis finalement, on est rentré dans cette question, on s'est mis à parler des sexbots, on a un peu oublié Thanatos et on s'est concentré sur Eros. Et là, je vous fais un petit récap sur cette slide de tout ce qu'on a pu faire ensemble, en podcast, en écrit ou en conférence, pour lui rendre hommage aussi, parce qu'il a été absolument clé dans ce travail-là. Et puis, suite à ces premiers travaux qu'on a fait ensemble, moi, je me suis aussi intéressée aux interfaces vocales, puisqu'il y a de grosses questions de genre qui se posent autour de celles-ci, donc Siri, Alexa, tous ces dispositifs que vous utilisez peut-être quotidiennement. Et je me suis intéressée donc à cette question-là et à voir comment le genre traversait la question de l'interface vocale. Et puis j'en reparlerai à Paris en 2022. Ça, c'est si vous avez envie qu'on se recroise, c'est possible en avril. Alors, je rentre dans le sujet, j'arrête de faire du métadiscours et on va se poser ensemble des questions frontales, à savoir quelle est la relation entre machine et désir. Alors, qui est une vaste question, et je précise les questions qui ont été les nôtres avec Anthony à l'époque. La première, simple, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire l'amour ou du sexe avec des machines ou des robots? Et même si on peut, est-ce qu'on doit? Est-ce que vraiment c'est une chose qui est souhaitable pour nous, humains? Et puis, si oui, comment et pour quel plaisir sexuel ou quel engagement émotionnel, quelles limites, à quoi il faut faire attention, quelles questions éthiques. Et bien sûr, on va en parcourir quelques-unes ensemble. Normalement, je ne lis pas mes notes, mais je passe quand même mes 17 pages au cas où j'ai besoin d'une anti-sèche. Alors, il y a plein de points de contact entre sexe et technologie dans la fiction et notre monde. C'est vraiment une question très difficile, en fait, parce que le sexe n'est pas qu'une seule chose. Et ça, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. Dès que quelqu'un commence à dire « le sexe, c'est », moi, ça me dérange un peu, parce qu'en réalité, des pratiques sexuelles, il en existe mille. Bien sûr, le sexe est lié à l'amour, mais il y a aussi du sexe sans amour. Il existe des milliers de sexualités différentes, peut-être autant que d'individus. Donc quand on dit faire du sexe avec des robots, bah, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? À quelle pratique on fait référence? Alors, il y a deux axes qui émergent. La première chose, si on se dit qu'on va faire un robot pour le sexe, c'est bah, comment je reproduis des mouvements, des gestes qui relèvent de la sexualité et qui sont en capacité de créer du plaisir. Et puis, il y a aussi la question du désir, bien sûr, parce qu'il n'y a pas seulement, on va dire, mouvement de va-et-vient ou que sais-je, à retranscrire, mais quels dispositifs techniques peuvent nous aider à générer ou ressentir du désir, sachant qu'en fait, ces dispositifs existent déjà. Je veux dire, Tinder ou Grindr ou autres sont déjà des dispositifs techniques qui aident notre désir et qui l'appareillent. Donc, en gros, c'est compliqué. Je ne vais pas parler de sextoy. Alors oui, oulala, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Normalement, je préface cette conférence avec ce qu'on appelle un petit trigger warning. C'est que comme je vais parler de sexe, bon, d'un côté, c'est déjà trop tard, mais bon, allons-y quand même. Forcément, je vais montrer des images. Alors, je ne vous vois pas très bien. Je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle ou des personnes que cela peut déranger. Je vais montrer des sextoys. Je vais montrer de la nudité, et il y a un moment où j'évoquerai la question de la pédophilie, mais bien entendu, je ne vais pas m'attarder dans des détails absolument épouvantables. Mais voilà, s'il y a des questions qui sont sensibles pour vous, sachez qu'elles seront abordées. Et les images peuvent être assez graphiques, comme on dit en anglais. Même si, bon, je n'ai pas fait exprès de mettre des choses terriblement pornographiques. Donc, je reviens à mon sujet. Nos sexbots, ils n'existent pas tout seuls, ils existent dans un écosystème, dans un environnement d'objets. Et moi, en tant que prof de design, c'est une chose que je fais systématiquement. C'est-à-dire, on a tendance à nous dire, faut-il faire ceci, cela avec un téléphone ou la voiture autonome? Ben, ces objets-là, ils existent dans un écosystème, ils existent en relation avec d'autres objets qui font dispositifs, comme le dit par exemple Giorgio Agamben. Donc, même si je ne vais pas parler de sextoy, j'en montre, parce que quand on se dit est-ce qu'on pourrait avoir ou fabriquer des sexbots, ben, il faut déjà prendre en compte le fait qu'on a déjà des objets pour le sexe. Et fatalement concevoir potentiellement un sexbot, bah, ça veut dire qu'on va sans doute emprunter des formes ou un imaginaire, ou en tout cas dans nos méthodologies, on va probablement emprunter des approches qui existent déjà dans l'approche des sextoys, ou ne serait-ce que des matériaux. On verra d'ailleurs que c'est le cas. Un autre point dans l'écosystème, c'est qu'il existe aussi des machines sexuelles. Alors, je doute bien que tout un chacun ou chacune n'est pas équipé de ces machines, mais en fait, il existe des pratiques vernaculaires de gens qui fabriquent des machines, soit par intérêt pour la mécanique, soit pour suppléer des formes de handicap ou de limitation, ou par curiosité sexuelle. Mais là, je vous en montre. Alors évidemment, il s'agit d'un dispositif pénétratif. On verra que ces sexualités technicisées sont très souvent tournées vers la pénétration. Mais voilà, il faut prendre en compte le fait, je conçois un sexbot, oui, mais il existe déjà des machines à faire du sexe. Et d'ailleurs, celles-ci sont très largement fantasmées par le cinéma. Donc on va toujours faire ça, hein, faire des allers-retours entre la fiction, principalement cinématographique me concernant, et l'existant. Donc machine à faire le sexe, on a vu, les imaginaires sont peut-être un peu maigres quand il s'agit des pratiques vernaculaires avec un énième sextoy pénétratif. En science-fiction, il y a des choses plus marrantes. Donc par exemple ici avec Woody Allen et l'orgasmotron, dans Sleeper, bon, qui est traduit en Woody et les robots en français, qui est vraiment une machine où on a un orgasme instantané. Donc bien sûr, c'est un regard assez cynique sur la sexualité. Mais cet imaginaire de la machine à produire de la jouissance est bien sûr très présent au cinéma. On pense aussi bien sûr à Barbarella, mais ici, je ne m'étends pas. Je fais un pas de côté complet. Là, j'étais sur des objets qui ressembleraient à des mécanismes produisant de la sexualité auxquels il manque l'intelligence. Je passe dans l'autre sens. Il existe des représentations d'intelligence auxquelles il manque le corps. Vous avez pas mal de films, notamment dans les années 80, qui représentent des robots amoureux, mais qui sont amoureux en l'absence de corps. Donc ça pose quand même pas mal de questions. Donc là, on est plutôt du côté de l'intelligence artificielle. Vous en avez un cas dans Electric Dreams, sauf que c'est un peu une sorte d'aporie de la représentation de la sexualité, puisque cet ordinateur finira par s'auto-détruire quand son propriétaire tombe amoureux d'une femme. Encore une fois, pour faciliter la relation hétéro, ça aussi, c'est une constante. Il en existe, là, je retourne à l'existant. C'est une slide un peu perdue, parce qu'en fait, je repars sur un dispositif technique, mais fabrique du désir par des dispositifs techniques. Là, je vous montre le projet Lovassist, qui est un projet d'étudiants qui a été fait en 2016, pas par mes étudiants, mais dans une autre école. On est plus sur de l'objet aussi qui n'est pas forcément dans, encore une fois, un énième dildo, un énième god, pour le dire crûment, mais aussi des dispositifs spatiaux, objets, qui vont venir appareiller la sexualité. Mais cette slide est un peu perdue. Alors, moi, j'ai produit ces catégories-là. J'ai essayé de penser des objets auxquels il manque l'intelligence, des intelligences auxquelles il manque le corps ou un appareillage machinique. Mais il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses qui s'intéressent à cette question et qui ont produit leur propre catégorisation pour essayer de comprendre la relation entre sexe et technologie. Alors, je vous livre celle-là, qui me semble pas trop mal. Donc, je vous ai mis la référence. Trois catégories selon Christopher Nussel et Nathan Shedroff. La première, c'est le matchmaking. C'est celle sans doute que vous pratiquez le plus. Toutes les applications de rencontre. Donc, c'est un des points les plus saillants de la rencontre sexe et technologie. Il y a le sexe avec un équipement technologique, ce qu'on va appeler les télédildonics. Donc là, ça va être souvent un dildo, mais qui va être connecté. Ce qui pose plein de problèmes, notamment sur la question de la vie privée. Parce que bien entendu, si vous générez de la donnée pendant que vous faites du sexe, et bien la question c'est où vont les données et par qui sont-elles utilisées. Et puis, le troisième point, et en fait c'est là qu'on va être aujourd'hui, le sexe augmenté par un dispositif technique qui est plus loin qu'un équipement technologique de type objet, c'est-à-dire qui vraiment va éventuellement simuler un corps. C'est le cas des sexbots, que j'ai non-genré, parce qu'en fait, le ou la sexbot, finalement, ça peut être les deux à la fois, on verra. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses, le sexbot ou la sexbot. Un sujet en soi, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui essayent de fabriquer des sexbots, et ça doit nous intéresser, parce que ça pose 1000 questions, des questions de technologie, d'écologie, de consentement. Mais c'est aussi une clé pour comprendre nos sexualités. Et une chose qui m'apparaît très régulièrement quand je parle de ce sujet, c'est à quel point, malgré les excellentes recherches qui existent sur la sexualité, on n'a quand même pas des imaginaires très fous du sexe, en fait. Ils sont souvent très monorails, un peu. Et à mon avis, le sexbot peut être aussi intéressant pour imaginer des choses qu'on pourrait faire, non pas forcément avec un ou une sexbot, mais même avec des partenaires. Donc des scénarios, d'autres imaginaires, d'autres représentations, d'autres esthétiques aussi. Ça, c'est très important. Bon, alors là, c'est vraiment le moment chercheur. Vous n'êtes pas obligé de lire cette slide. C'est juste pour montrer que je l'ai fait. Quand on a commencé à travailler avec Anthony en 2015, il y avait relativement peu d'études. Un travail vraiment, sans doute pionnier, qui existe sur la question, c'est la thèse de David Levy, qui est devenue un livre, Love plus Sex with Robots, en 2017. Et depuis, il y a eu d'autres études, mais enfin, c'est assez marginal. Et en m'y replongeant là, pour cette conférence, je me suis rendu compte que c'était assez calme. Il n'y a pas des milliers de choses qui sortent sur les sexbots. Il y a quand même une chose intéressante qui est qu'il y a des gens qui s'emparent de la question pour s'y opposer très strictement. Et c'est le cas de Kathleen Richardson, qui a fondé la CASR, Campaign Against Sex Robots. Donc elle, son propos est très clair, c'est « il faut en parler pour les interdire avant même que ça existe ». Elle est critiquée, et moi-même, je fais partie des gens qui ne sont pas en phase avec cette position. Je ne crois pas trop à l'interdiction, en fait, je pense que ce n'est pas optimal, et je pense qu'en fait, il y a des choses intéressantes à faire avec des sexbots. Donc c'est un peu dommage de les interdire avant qu'ils existent. Et puis après, il y a d'autres ouvrages, Dana Hur et MacArthur, je les citerai aujourd'hui. Il y a la FFR, qui est la Foundation for Responsible Robotics, donc ils font des rapports, mais pareil, ils en ont fait un en 2017, qui est bien, et qui est pas soporifique, bien que ce soit un rapport. Mais depuis, ils ont fait un autre rapport sur les drones et pas grand-chose d'autre. Bon, après, la recherche prend du temps et c'est aussi un petit peu normal. Et puis, il y a le très bon travail de Kate Devlin, je la citerai beaucoup, qui s'appelle Turned On. Et là, par contre, je vais vraiment m'appuyer sur son boulot. Je vous montre les couvertures, parce que je trouve ça aussi hyper intéressant, de voir comment nos imaginaires des sexualités, d'une potentielle sexualité avec les robots, sont incarnés dans l'image, soit avec le classique androïde qu'on a beaucoup vu en science-fiction, avec mécanisme apparent. Donc on se dit, ah, pourquoi pas, faire l'amour avec des robots qui auraient l'air d'être des robots, c'est intéressant. Ou au contraire, un imaginaire du mariage hétérosexuel en blanc, qui est quand même assez classique, où on se dit... On va inventer des sexbots pour faire absolument la même chose qu'on fait déjà, c'est un peu triste. Mais au final, je trouve que là, même en prenant la première couverture, on est quand même sur des imaginaires un petit peu serrés. Je vous en donne une définition. Qu'est-ce qu'un sexbot tout de même? Parce que j'en parle depuis le début. Donc, un sexbot ou une sexbot est un robot qui peut être anthropomorphe, mais finalement, pas que. On pourrait... alors. Pose mille problèmes, hein, mais techniquement, rien n'interdit de faire un sexbot qui soit un animal ou qui soit animalisé. On verra que ça existe un petit peu. Capable d'engager une activité sexuelle avec plusieurs humains et de répondre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a des sextoys anthropomorphes qui sont les dolls dont je vais parler dans un instant, mais on a des interactions qui sont très limitées. Donc même dans des boîtes qui disent oui, on fait des sexbots ou des dolls AI ou je sais pas quoi, en réalité, l'interactivité est très limitée. Et puis, il y a un point supérieur qui est bien sûr la sentience, c'est-à-dire, là, on n'y est pas du tout, des intelligences artificielles qui seraient conscientes d'elles-mêmes. Alors, ça n'existe pas, mais c'est pas parce que ça n'existe pas qu'il faut pas le penser. D'ailleurs, Asimov l'a fait il y a bien longtemps. Et dans le cas du sexbot, c'est bien sûr très intéressant, parce que si j'ai un sexbot sentient qui est conscient de lui ou d'elle-même, pourquoi il serait donc dédié à me servir sexuellement? Et puis, si j'ai envie d'un rapport sexuel et pas le robot, qu'est-ce qui se passe? Et puis, si au contraire, mon robot a envie ou, je sais pas, engage quelque chose et pas moi, est-ce qu'il est en capacité de s'arrêter et d'écouter mon consentement? Bon, ça, c'est vraiment des questions de prospective, hein, on est bien d'accord, hein, ça n'existe pas pour le moment. Mais ça fait partie de la définition des sexbots. Alors, en 2015... nos recherches en étaient là parce qu'il fallait classer. Et on a essayé de classer dans la fiction pour essayer de comprendre comment ça marchait, de regarder un peu les robots au cinéma. Alors évidemment, tous ces points roses ne représentent pas la gigantesque étendue des représentations de robots au cinéma. Puis il y en a eu d'autres depuis. Mais nous, ce qu'on se disait, c'est qu'il y avait deux axes qui sont terriblement déprimants. L'esprit et le corps. Absolument horrible de les séparer. Ça traduit un héritage cartésien absolument terrible. Et en même temps, dans les représentations de robots, on est bien obligé. Donc en gros, il y a des robots anthropomorphes qui ont l'intelligence d'une huître, mais il y a aussi des robots pas anthropomorphes qui sont très intelligents. Il y a des robots sans conscience, il y a des robots avec conscience, et on a essayé un peu de les répartir pour voir ce qui se passait. Et de définir aussi des manques, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a des trous et où est-ce qu'on pourrait aller chercher. Le sexbot, donc, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, s'inscrit dans une chaîne d'objets existants aussi. C'est-à-dire qu'il est un peu, un petit peu comme ce que dit Simondon sur les poussées, les poussées techniques. Et là, c'est même pas seulement des poussées techniques, c'est aussi des poussées de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a une grande ancienneté finalement de l'objet anthropomorphe pour le sexe. Les marins, fut un temps, embarquaient des Dutch wives sur les bateaux pour combler l'absence de leurs épouses. Ça a donné les fameuses, ce qu'on appelle les poupées gonflables, vraiment dans l'imaginaire du sex shop années 80-90. Aujourd'hui, vous avez au milieu une image d'une doll anthropomorphe qui représente vraiment ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Et puis enfin, vous avez un des, alors je vais pas dire sexbot parce que c'est pas vraiment une sexbot, mais une des dolls les plus interactives qui soit aujourd'hui sur le marché, et il me semble que c'est Abyss Création. Mais voilà, c'est le sexbot, s'il existe un jour, s'inscrira dans cette chaîne-là. Suite au petit schéma que vous avez vu précédemment, moi j'ai essayé de le refaire quand j'ai travaillé davantage sur la voix et avec des moyens graphiques parce que c'est beaucoup mon outil de recherche. Je passe énormément par le dessin et le texte ou le texte dessiné. Et du coup je me suis dit mais c'est pas tant esprit-corps auquel il faut penser, c'est peut-être plutôt voix, corps et sentience. Un triple, voilà, un tripode qui permettrait de penser les sexbots. La sentience, on l'a pas, sauf dans la fiction. Le corps, on l'a beaucoup et la voix, on l'a également beaucoup. C'est-à-dire que penser les sexbots, c'est aussi penser à toutes les voix qui habitent nos vies actuellement, de Siri, Alexa, Cortana et tous ces dispositifs. Je précise qu'en général, je diffuse ces dessins, voilà, si vous voulez les retrouver et si ça vous inspire pour une chose ou une autre. Ah, alors là, j'ai pas de connexion internet, mais c'est pas grave. Je vais passer à la suivante. On verra tout à l'heure des images de doll et je vais vous montrer un petit peu ce qui existe sur le marché. Donc les fonctions du sexbot, vous l'aurez compris, satisfaire des besoins sexuels, mais aussi augmenter la sexualité humaine. On a beaucoup ce discours-là, c'est-à-dire il y aurait des gens qui n'auraient pas de sexualité, il faudrait combler un manque ou appareiller. Donc il y a cette idée que le mec incel, parce que c'est vraiment la figure, on va dire, de la personne frustrée dans son désir, pourrait recourir à un sexbot. Il y a aussi l'idée que la sexualité humaine pourrait s'enrichir. Par exemple, l'idée qu'un couple, ou même 3-4 personnes, pourraient acquérir un sexbot pour faire des trucs avec. Mais il y a aussi une autre possibilité dont parle MacArthur, dont je montrais le livre tout à l'heure, c'est l'idée d'aider l'apprentissage et la découverte de la sexualité, voire la prévention. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai pas vu passer de choses là-dessus, mais par exemple, ce serait ultra intéressant de penser à des sexbots qui nous éduqueraient au consentement, par exemple. Alors, qui seraient pas totalement des sexbots, plutôt des dolls interactives, mais il y a clairement quelque chose à faire à cet endroit-là. Bon, ça, je passe aussi, c'est mes outils de recherche, c'est pour vous montrer que j'ai fait mon travail. Je me suis tapé des heures sur les sites de dolls à regarder tous les modèles qui existent. Mon historique était dégueulasse à chaque fois que j'allais en cours. J'ai passé des cookies en espérant qu'il n'y ait pas un truc qui pop, parce que c'est quand même un peu gênant. Voilà. Mais du coup, j'ai passé vraiment des heures sur ces sites et ça fait un peu un truc, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, quels sont les sexbots existants aujourd'hui? Mais pareil, je mets vraiment sexbots entre guillemets. Enfin, qu'est-ce qui se rapproche le plus du sexbot? Parce que j'insiste, le sexbot n'existe pas vraiment. Donc, je vous donne les marques. Et je vous en ai mis une que j'ai barrée pour vous montrer aussi qu'il y a un peu un discours commercial qui crée du trouble. Parce que par exemple, la boîte Four Woods, tout un poème, a créé les AI dolls qui en fait n'ont pas du tout d'intelligence artificielle à l'intérieur. Quoi. Ils disent oui, elles sont intelligentes. Bon, il y a peut-être un logiciel de conversation embarqué extrêmement primaire, mais je veux dire, c'est comme avoir Siri dans une poupée gonflable. Quoi. C'est pas beaucoup plus élaboré. Par contre, les modèles comme Roxy, Harmony, Eva, Z-Wendell sont quand même un peu plus avancés. Et en général, ce sont des modèles sur lesquels vous pouvez tout choisir. La couleur de la peau, c'est un problème, j'y reviendrai. Les yeux, les cheveux, les ongles. Il y a des options, alors vagin amovible ou pas. Alors oui, vagin amovible, parce qu'en fait, bien entendu, toutes ces dolls sont en très grande majorité gynoïdes. Pas que... mais elles ont vraiment une forme de femme cis, donc avec un vagin. Et puis bien sûr, on verra qu'elles sont souvent minces, correspondant à des canons de beauté extrêmement restreints, enfin, comme on peut à peu près s'y attendre. Il y a d'autres options, notamment une intéressante qui est la chaleur du corps. Il y a des modèles chauffants. Parce qu'évidemment, cette histoire du réalisme convoque plein de choses. C'est pas juste avoir un corps qui me ressemble et que je regarde, c'est que y a le souffle, il y a le toucher, il y a la réactivité, y a plein de petits détails en fait. C'est compliqué de faire un humain. Et la chaleur notamment est un point assez important. Et enfin, excusez-moi, mais il y a aussi des modèles auto-lubrifiants. Alors je montre quelques modèles très rapidement pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, majoritairement en forme de femme cis, faite pour les rapports sexuels, dans certains cas articulées, elles ne se mettent pas toutes debout. Ça aussi c'est en option, en général c'est plus cher. Donc ça aussi, hein, un robot qui vit couché, enfin un corps anthropomorphe qui vit couché, c'est quand même intéressant en termes idéologiques. Il y a aussi, alors ce sont des modèles qui pèsent entre 30 et 40 kilos. Donc c'est quand même quelque chose pour les déplacer, notamment parce qu'elles ont un squelette acier et aluminium, et autour c'est en général du silicone ou du TPE. Je m'étends pas, mais si vous voulez causer matériaux après, on peut. Ça fait que ces modèles sont chers, ça aussi c'est quand même un point important, hein, parce que dans la question de l'accès à la sexualité, il y a quand même la question de la classe qui est ultra importante. Quand on a commencé nos recherches avec Anthony en 2015, on était vraiment sur une fourchette qui était plus de 5 000-10 000 $, et je dis dollars parce que les sites étaient majoritairement américains. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de modèles à 3 000-4 000, et puis il y a des copycats pas terribles, ça commence à 500, mais à $500, vous n'avez pas d'interactivité, par exemple. Voilà. Donc c'est quand même des modèles assez chers. Et il y a bien sûr des gens qui les collectionnent. Alors, je vais juste lancer cette petite vidéo qui n'a pas de son et c'est normal. Pour vous montrer, par exemple, une des dolls les plus connues, hein, donc c'est la marque Abyss avec son créateur Mac Mullen, qui a l'air très content sur cette vidéo, et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais on voit bien aussi à quel point ces objets empruntent complètement à des tas de choses qu'on a vues en science-fiction, hein, avec l'idée que le système, le processeur est à la place du cerveau, l'idée aussi de cette enveloppe silicone charnelle qui vient recouvrir un squelette. Donc là, on n'est pas du tout dans une robotophilie, comme on pouvait le voir sur la couverture tout à l'heure, avec un robot dont on voit les mécanismes. On ne fait pas l'amour avec un robot pour l'expérience avec le robot. Le robot doit reproduire au maximum l'expérience sexuelle avec une humaine. Pareil, donc là, c'est Harmony de Abyss. Alors, vous voyez, ça, c'est aussi des photos qui ont été prises dans le New York Times et qui mettent aussi en scène ce réalisme-là et qui sont tournées vers le réalisme maximum. Même si, voilà, il y a d'autres photos comme ça. Ça me permet de vous montrer Henri, qui est un des rares robots qui ressemble à un homme 6 qui a été créé par Abyss. Et donc, ces robots-là existent, mais ils sont minoritaires. Eva, de Android Love Dolls. Alors, aussi intéressant, hein, pourquoi je vous montre cette photo-là, c'est que dans les options, il y a la possibilité d'exagérer les caractéristiques au-delà du réalisme. Et là, on est sur une frontière réaliste. Il faut que ce soit suffisamment réaliste pour susciter le désir. Et en même temps, il y a des bonnets absolument extravagants au niveau des seins, au niveau des fesses, à tel point que ces corps basculent dans des esthétiques qui sont plus proches du cartoon ou de l'animation. Et là, on n'est plus du tout sur le réalisme. Alors, c'est un peu évidemment consternant quand on est féministe comme moi, parce qu'on se dit, on est dans une objectification du corps des femmes complète. En même temps, pour moi, ce n'est pas le problème des sexbots, c'est que ça existe par ailleurs dans la société, mais les sexbots peuvent potentiellement renforcer ce problème-là. À la fois, c'est intéressant parce qu'on se dit, mais ça veut dire aussi qu'on pourrait imaginer d'autres choses. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer d'autres corps, hein, qui ne seraient pas forcément absolument similaires aux nôtres. Donc, en design, comment concevoir un sexbot et comment penser sa forme? Voilà, ça, moi, c'est une des questions vraiment qui m'intéresse, et aussi pas seulement sa forme pour faire joli, mais quels usages, voilà, et du coup, quelle sexualité ça fait imaginer. Je vais passer cette slide sur la vallée de l'étrange, parce que je pense que vous connaissez le concept. Bon, en très gros, ça, c'est un concept de Masahiro Mori qui nous dit que, globalement, plus un robot est anthropomorphe, ou même ressemble à un animal d'ailleurs, plus on va ressentir de l'empathie et on va être en capacité de s'identifier. Mais sauf que cette ligne n'est pas une belle ligne droite qui progresse, plus il y a de réalisme, il y a un drop. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est hyper réaliste, mais pas assez. Et du coup, là, ça s'effondre et ça devient bizarre, cringe, et on est inquiété, en fait. Et ça, les fabricants le savent très bien, parce que notamment, ils essayent, dans certains cas, de ne pas être trop réalistes, parce que c'est bizarre. Il y a des fabricants qui, par exemple, font des visages symétriques à leurs dolls, parce que quand ils font de la symétrie sur les visages, ça ressemble trop à un visage humain, et là, ça devient inquiétant. Pareil, ça, je passe. J'aurais bien aimé vous parler du phoque, mais tant pis. Dans les fictions, donc on trouve, hein, je vais vous en montrer quelques exemples, des robots anthropomorphes avec toute l'étrangeté que ça peut créer. Alors, en plus, qui sont souvent joués par des acteurs humains. La série Black Mirror en est un exemple. On a aussi Blade Runner, qui est bien sûr absolument fondateur dans ce genre ou sous-genre. Plus récemment, Westworld. Et ce qui est intéressant, c'est que on a d'autres représentations, comme ici Tars dans Interstellar, qui sont à l'autre bout du spectre du réalisme. C'est-à-dire que on n'est plus du tout dans le corps humain. C'est un robot dans une boîte. C'est le cas aussi de Gertie dans Moon. Voilà. Et l'humanité, elle va être créée différemment. Notamment, là, c'est Kevin Spacey, par exemple, qui fait la voix de l'IA, et le gain d'humanité, il se fait par la voix, ce qui n'est pas anodin. Mais je reviens quand même à la forme du corps, parce que c'est ça qui m'intéresse quand même. Moi, ce qui m'a intéressé en analysant ces films, c'est quand même de dire, mais finalement, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Un robot, aujourd'hui, au sens large du terme, pas seulement un sexbot, dans les imaginaires, c'est soit un humain avec des rouages, ou c'est un grippin. Mais il n'y a pas de choses au milieu, il n'y a pas de choses plus hybrides. Et ça nous renseigne aussi sur cette capacité de ces potentiels dispositifs à être étranges. Et moi, ça me donne envie d'y aller, quoi. Ça me donne envie de voir quel robot pourrait exister. Je vais quand même dire un mot de la question du sexisme, parce que vous vous rendez bien compte, en ayant vu les images de Dolls tout à l'heure, que c'est un gros souci. Je ne peux pas faire ici un historique de la relation entre les sujets femmes et la technologie, mais c'est un vaste sujet. En 2 minutes de pitch, les femmes ont été globalement exclues des imaginaires de la technologie. Elles en sont très rarement les sujets. Elles ne sont pas créatrices, développeuses quand elles sont représentées, mais elles sont plutôt représentées comme la créature à créer par le savant Démiurge qui lui contrôle les moyens de la technologie. Et ces imaginaires-là sont encore extrêmement prégnants, notamment au cinéma. Si vous voulez vous renseigner sur cette question, je vous montre quand même ces deux refs. Brotopia de Emily Cheng, qui malheureusement n'est pas traduit, et l'exposition Computer Girls, qui était à la Gaîté Lyrique et dont on peut trouver quelques retranscriptions et illustrations sur Internet, qui vraiment refont tout cet historique des femmes dans l'histoire de l'informatique, mais qui va informer directement la manière dont on pense des sexbots. C'est pour ça que j'en parle. Au cinéma, il y a plein de films dans lesquels vous avez des hommes comme ça qui s'amusent à créer des femmes, pas forcément pour les exploiter sexuellement, encore que ça arrive, mais qui vont aussi représenter cette catégorie de ce que j'ai appelé les hybrides providentiels. C'est-à-dire qu'en gros, ces femmes sont générées alors, soit par la magie, soit par les techniques informatiques, mais souvent la magie est aussi une métaphore de la technique ou de la technologie. Et ces femmes se retrouvent alors soit à faire du service sexuel, soit à tomber amoureuses de ces hommes pour devenir de vraies femmes. Alors ça, c'est aussi assez intéressant. C'est un peu le récit de Pinocchio, mais au féminin. Enfin, faire du care, c'est-à-dire s'occuper des besoins émotionnels de ces hommes. Donc Mannequin, c'est un film assez intéressant à cet égard. Enfin bon, après, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais c'est intéressant de le signaler. Weird Science, que vous êtes peut-être plutôt vu, hein, sur deux nerds qui programment, un peu par magie d'ailleurs, une femme androïde qui va venir les aider à draguer et à devenir de vrais hommes. Et puis, j'adore ce film, mais en même temps, on peut quand même le questionner sur le plan du genre. Finalement, en tout cas, la situation initiale de Her, c'est quand même un homme dans un manque affectif, avec une IA femme, qui, enfin, en tout cas codée comme féminine, qui va s'intéresser à ses besoins amoureux et émotionnels. Certes, il y a une réciprocité à un moment donné, mais quand même, la situation initiale, c'est quand même encore une femme qui fait du care pour un homme, et c'est pas anodin. Par contre, il existe bien sûr des représentations d'androïdes, enfin plutôt de gynoïdes d'ailleurs, qui se rebellent et qui engagent une forme d'autonomie ou comme on dit aujourd'hui, d'agentivité. Sauf que là, pareil, on passe à l'opposé du spectre complet, c'est dès qu'une femme robot est autonome dans la fiction, elle est tueuse quasiment. Alors, je suis sûr que vous allez me trouver des contre-exemples, il y en a probablement, mais en gros, si elle n'épouse pas son créateur, elle le tue. Et donc elle est dangereuse. Ce qui est quand même une métaphorisation hyper intéressante de l'autonomie féminine, des vraies femmes, celles-là. C'est-à-dire, en gros, attention, si les femmes prennent un peu trop de pouvoir, apparemment, les hommes vont mourir. Donc ça traduit quand même une espèce de rapport paranoïaque assez intéressant. Alors, la robot tueuse dans Austin Powers en est un exemple. Et puis, bien sûr, dans Westworld, on en a un autre. Et puis, je ne sais plus si j'ai mis la slide. Oui, Ex Machina en est un autre exemple. Encore une fois, j'ai une relation critique à ces films. Ce sont aussi des films que j'aime beaucoup et qui me font rêver. Mais je trouve quand même assez intéressant d'avoir un prisme critique et engagé sur le plan féministe vis-à-vis de ces fictions. Alors, du côté des gens qui critiquent les potentiels sexbots, on nous ramène souvent à la problématique féministe de l'objectification. C'est-à-dire que dans notre société contemporaine, le corps féminin, qui est considéré comme globalement différent et radicalement différent du corps de l'homme, en tant que personne trans, vous vous doutez bien que j'ai un peu un regard différent là-dessus, mais passons. En tout cas, dans un prisme, on va dire strictement homme-femme, il y a l'idée du corps masculin agissant et du corps féminin, par contre, qui est beaucoup plus au service du désir masculin. Les critiques des sexbots, dont Kathleen Richardson, disent « Les sexbots sont des objets qui ont l'apparence de femmes, donc ça prolonge l'objectification, donc ça ne doit pas exister. » Sauf qu'à mon sens, il faudrait plutôt s'interroger sur ce qui crée l'objectification du corps féminin dans nos sociétés, y compris le corps de femmes qui vont se retrouver agressées, violées, etc. Plutôt que de radicalement dire « Parce qu'il y a objectification, on ne crée pas d'objet. » En tant que designer, je dirais, les objets ne sont pas responsables de l'objectification. Pensons plutôt de meilleurs objets. Mais c'est vrai, il y a quand même des choses qui existent, on ne peut pas le nier. Et notamment, beaucoup de sextoys existants, et qui encore une fois informent notre pensée du sexbot, qui vont un peu débiter le corps féminin en petits bouts. Alors en plus, là, vous avez un petit bassin de soubrette, ou alors cette poupée en plastique transparente, donc des femmes sans tête, des femmes sans bras, des femmes sans pieds. Donc là, on est vraiment dans une représentation de disponibilité complète des parties génitales et un corps féminin, mais qui est décorporéisé ou en tout cas complètement déconscientisé. Ces problèmes-là vont se retrouver dans les sex dolls, avec beaucoup d'imaginaire, de disponibilité du corps féminin. Et c'est là où, même si je suis plutôt pour qu'il y ait des sex bots, je suis quand même très vigilant et je dis attention à ce qu'on fait. Donc là, on a un modèle qui s'appelle Sleeping Mitsuki, qui pose quand même au moins deux problèmes. Donc déjà, il s'agit d'une femme asiatique. Vous savez que les femmes asiatiques, au sens large, sont très critiques de leur objectification. Hein, c'est-à-dire, elles disent souvent qu'elles sont soumises, au schéma ou au cliché de la poupée orientale dont on peut disposer à sa guise. Alors évidemment, faire une poupée avec des traits ou une apparence asiatique, ça pose des problèmes. D'autant plus que celle-ci a les yeux fermés. C'est vraiment la Belle au bois dormant, elle n'ouvre pas les yeux. Voilà. Donc, est-ce que ça ne peut pas naturaliser aussi des formes de sexualité où je dispose de cette personne qui a les yeux fermés, apparemment c'est OK. Bon, bien entendu, ça s'appelle un viol. Il s'agit d'une poupée, on est borderline. Mais est-ce que l'usage de ces poupées ne peut pas être une passerelle vers des comportements abusifs? Sans doute que oui. Et c'est pour ça qu'il faut inventer de meilleurs dolls et de meilleurs sexbots. Autre exemple, avec cette poupée Latina qui porte un t-shirt « I love guacamole ». Bon, vous en avez plein. Don't ask. Mais vous avez beaucoup de représentations comme ça. Sur les sites, ça m'a frappé parce que quand j'ai refait des recherches là récemment, c'est des choses nouvelles. Il y a de plus en plus d'imaginaires très précis qui viennent du porno d'ailleurs, qui arrivent sur les sites de dolls. L'offre s'est beaucoup diversifiée. En 2016-17, vous aviez noire, asiatique, blanche, blonde, brune, russe, rousse. Vous aviez ces catégories-là. Aujourd'hui, vous avez vraiment des catégories qui viennent du porno. Donc la MILF, par exemple, la doll MILF. Mother I'd Like to Fuck, si vous ne connaissez pas, mais bien sûr que vous connaissez. Vous avez aussi des dolls enceintes, puisqu'apparemment c'est un kink. Vous avez toutes sortes de dolls, et ça s'est vraiment diversifié, mais bien sûr avec des problématiques, parce que ça va consolider certaines identités féminines qui sont, bien entendu, totalement oppressives et qui peuvent, bien sûr, se reporter sur les femmes existantes. Allez, j'en montre une dernière, je la passe vite parce que je trouve ça quand même terrible. Voilà, orientale, fine, avec des fesses généreuses et des petits seins fermes. Donc là, on est vraiment dans tout ce... C'est rhétorique aussi, parce que finalement, c'est pas que des objets, il y a aussi des discours sur ces sites. Des fois, il y a même des histoires, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, il y a des morceaux de fiction. Donc ça, c'est absolument passionnant. Donc là, c'est pas le cas, mais d'ailleurs, si, elle dit « Je suis l'une des sex dolls », donc elle parle, Sarah. Et puis maintenant, on a des sites avec des pages et des pages de texte où Sarah raconte son histoire, elle vient de là, elle a été espionne en Russie ou je sais pas quoi. Enfin, donc là, il y a un lien à la science-fiction qui est quand même assez fort, mais c'est la science-fiction qui revient dans la vente d'objets concrets. Mais avec ici un biais raciste et fétichiste très fort. Donc pour synthétiser tout ça, on a une offre pour l'heure qui est marquée par l'hétéronorme, c'est-à-dire que ce sont globalement des hommes hétérosexuels qui achètent des poupées qui ont l'apparence de femmes avec un vagin, dont ils disposent sexuellement. Et ce qu'on appelle le male gaze, donc les esthétiques qui président à la conception de ces dolls, c'est vraiment le modèle majoritairement blanc, ou en tout cas à la peau claire, sauf dans les cas de fétichisme raciste, mais voilà. Mince, ça c'est certain, il n'y a pas de dolls grosses, ou alors ce qu'ils appellent dolls grosses, franchement, c'est... elle n'est pas grosse. Vous avez aussi, ça m'a fait beaucoup rire, la doll lesbienne, alors j'ai cliqué, elle a les cheveux courts. Voilà. Bon, passons. Mais ça vous montre bien l'étroitesse de la chose. Donc c'est une définition très étroite de ce qui est désirable. Là, cette sexualité, elle est majoritairement pénétrative. Alors il y a quelques dolls qui sont dites trans, mais d'ailleurs ce sont que des femmes trans, du coup, enfin en tout cas des modèles femmes trans. Ou alors vous avez aussi des dolls que vous pouvez équiper de pénis interchangés, mais elles sont vraiment beaucoup plus marginales. Alors le problème, c'est que sur les dolls transgenres, y a tout le vocabulaire du porno transphobe qui est hyper présent. Donc je ne vais même pas donner les mots, mais les mots que vous allez trouver sur Pornhub si vous voulez trouver du porno avec des femmes trans. Voilà. Et donc un panel d'identité restreint, je l'ai dit. Le temps, on est... Oh waouh, ok, alors je vais passer à toute allure. Quels usagers pour les sexbots? Bon, non, ça je passe. Je vous montre qu'il y avait plein de trucs, ça fait un peu teaser. Mais oui, allez, en un mot, donc il faudra penser aussi des questions écologiques, les chaînes de production et l'approvisionnement, puisque finalement, la fabrique de tous ces corps, c'est pas rien, comme vous pouvez le voir. Je passe ça. Le sexbot est-il un sextoy ? Ça, on pourrait peut-être en parler dans les questions. Pareil, je passe, mais vous voyez qu'il y a tout un langage plastique qui existe dans les sextoys qui pourrait aussi venir contaminer nos dolls. Ça, allez, quand même, ça monte, je remonte rapidement. Dans les fameux types qui sont inventés aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles SF et fantasy. Mais bon, vous voyez bien, c'est pas une ouverture des imaginaires du tout. C'est-à-dire qu'on a juste collé les signifiants de la fantasy et de la SF sur des corps qui, par ailleurs, sont hyper normés. Donc là où la SF pourrait complètement permettre d'ouvrir les imaginaires et d'inventer d'autres trucs, ben en fait, pour le moment, pas du tout. Et ça, je passe, j'arrive... Ouais, du coup, j'ai pas parlé de pédophilie, mais tant mieux. Ouais, non, si un mot, j'ai le temps, un petit mot. C'est pour dire voilà, que normalement, c'est interdit de faire des dolls qui ont l'air d'enfants. Mais bien entendu, ils ont trouvé des moyens de contourner la chose. Ils font des mini dolls. Donc, ils font des mini dolls qui font un mètre en taille et puis qui ont la poitrine plate. Donc, en fait, ils font des dolls en forme d'enfant. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Voilà, ça n'existait pas quand j'ai regardé il y a quelques années. Je vous laisse méditer là-dessus et j'en arrive à ma conclusion. Ploup. De ce que j'essaye d'imaginer moi et ce que je souhaite, donc qu'on remette les sexbots dans le présent, qu'on pense le contexte macro, qu'on pense toutes les questions d'oppression, qu'on essaye de penser à autre chose que juste augmenter la sexualité, qu'on la réinvente complètement, qu'on imagine vraiment des sexualités nouvelles, investir des zones grises, il n'y a pas humain ou grippin, il y a sans doute d'autres choses à faire. Et enfin, bah, arrêter avec ce désir prométhéen de créer une énième meuf qui est à mon service. Mais penser le sexbot comme outil, dispositif, peut-être pas attendre que les sexbots soient sentients, les prendre comme des machines et de voir ce qu'on peut faire avec. Voilà.
Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien demander à toutes les femmes présentes et les hommes aussi, d'ailleurs, que tant que... Enfin, parce que c'est possible que ça soit commercialisé dans très peu de temps, en fait. Je ne sais pas si c'est déjà le cas pour toutes les poupées.
Mais elles le sont. Hein. Elles sont dispo. Hein.
Oui, ah oui. Ok. Donc, il y a vraiment la question de l'argent, hein, si on est capable ou pas, si on a les moyens ou pas. Donc, c'est vraiment une question de classe sociale. Et je demande à toutes les femmes ici présentes, vraiment... De tant que ça n'existe pas, en fait, la même chose avec des corps masculins, que en fait, on soit juste solidaires les unes et les autres, en fait, mais qu'on fasse ce qu'on peut pour que ça n'existe pas, en fait, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est horrible. Enfin, moi, j'imagine un futur absolument horrible dans mon bouquin. Je suis écrivain et j'espère qu'il se produira pas. Hein, concrètement, voilà.
Alors, ça existe. En fait, si tu vas sur un site de dolls, tu vas trouver un modèle masculin. Mmh. Mais par rapport à la pléthore de poupées féminines, en fait, si tu tapes même sur doll, moi j'ai tapé sex doll plein de fois là sur Google ces derniers jours pour faire cette requête tout le temps. Et en fait, ce que tu trouves d'abord. C'est des corps féminins. Même s'il y a des discours de la part des fabricants de « nous répondons à tous les désirs, oui, nous pouvons tout faire », etc. Dans les faits, c'est, je sais pas, j'ai pas fait de calcul, mais de visu, je dirais 95%.
Mm-mm. Ok. C'est chaud.
Bah, du coup, merci. Et moi, j'avais une question, c'était, vous preniez l'exemple des incels et de la pédophilie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un enjeu aussi avec les poupées d'assouvir, de permettre à ces personnes-là en fait, d'assouvir des pulsions qui ne remettraient pas sur d'autres personnes ? Est-ce qu'on n'aurait pas un enjeu de prévention, un peu, entre guillemets ? Même s'il y a...
Alors ça, c'est une chose qui est abordée par plein de gens et Kathleen Richardson, j'ai dit que j'étais pas d'accord avec elle, mais il y a au moins un point où je suis d'accord avec elle, c'est qu'en fait, en général, ces dispositifs Je crois qu'il y a des études sur le sujet, je ne vais pas en citer parce que je ne les ai pas là en tête, mais en réalité, sur les questions de pédophilie ou même de viol ou d'abus, le fait d'assouvir avec un palliatif encourage plutôt le désir plutôt qu'il ne l'apaise. Et c'est la même question sur... Très franchement, là, en ayant 5 minutes dans des questions, je crois qu'il faudrait peut-être avoir 1 heure pour en discuter. Mais ce qui est clair, oui, c'est que... Comment dire, c'est le même débat sur la pédopornographie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, autoriser ces désirs-là à être assouvis, apparemment, c'est plutôt une passerelle vers le passage à l'acte, en fait, que véritablement une manière de couper le désir. Et là où je rejoins la remarque qui vient d'être faite, c'est que il y a peut-être d'autres possibilités qui seraient le soin, l'accompagnement psychiatrique ou psychologique, qui serait sans doute beaucoup plus souhaitable. Je pense presque que la question de la pédophilie est presque une question en soi. J'ai voulu la mentionner parce que je trouve ça nouveau. Et quand j'ai vu ces poupées, j'ai dit oh là là, mais ça n'existait pas. Et de voir comment ils se débrouillent aussi formellement pour contourner l'interdit. Voilà.
Bonjour, merci en tout cas, c'est hyper intéressant. On n'a pas du tout parlé de la question du sexe entre les robots, du coup, entre les futurs androïdes, futurs robots, parce que l'intelligence artificielle n'est pas encore là, mais ça va être quelque chose qui est très intéressant et qui appelle au renouveau de l'intelligence, qui est du robot qui se rebelle et qui fait pas avec les humains, mais avec les autres robots, quoi.
Pour le coup, moi, c'est des choses que j'ai un tout petit peu abordées dans mon roman, parce qu'il y a des bots et des humains, et toutes ces personnes ont du sexe ensemble, mais comme dans une société comme la nôtre, on va dire. Après, c'est vrai que la question du sexe entre robots, je ne l'ai pas abordée en recherche, notamment parce qu'encore une fois, comme la question de la sentience est encore devant nous, l'idée d'en arriver à des robots qui seraient en capacité intellectuelle, entre guillemets, ou en tout cas d'avoir l'intelligence suffisante pour interagir et avoir du sexe entre eux et elles, n'est pas tellement d'actualité. Mais super, moi ça m'intéresse beaucoup. Et ne serait-ce aussi que pour renouveler les désirs, ça j'en ai pas parlé, mais j'ai passé la slide très vite, mais il existe des fétiches, ou il existe même des communautés qui sont très très niches bien sûr, mais qui se revendiquent d'une robotophilie, c'est-à-dire qui aiment les représentations méca associées au sexe, et effectivement le fait d'avoir des robots qui relationnent ensemble, ça peut être un super moyen d'étendre les imaginaires et d'imaginer d'autres formes de sexualité, ou d'explorer aussi ce qui est dysfonctionnel dans nos sexualités. Voilà, mais merci beaucoup pour cette question, c'est passionnant.
Bonjour, merci. J'ai une interrogation. Vous en avez pas parlé, j'avais déjà vu ça dans une série Netflix, je me souviens plus du nom. C'était à l'aide d'un sextoys, mais avec un espèce de casque de réalité augmentée, donc avec des choses qui étaient complètement fictives pour le coup, complètement imaginaires, donc pas du tout avec des humains. Est-ce que c'est déjà répandu? Est-ce que ça existe déjà, ce genre de choses?
Oui. Oui, oui. Et alors, pour le coup, là, pour le moment, dans l'offre des dolls, alors pareil, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a un peu deux horizons. Le premier, c'est d'améliorer les logiciels de conversation et le feedback. C'est-à-dire, quand on touche la poupée, elle peut réagir et dire des choses sur où on la touche et tout ça. Et ça, c'est déjà un peu le cas avec des modèles comme Abyss. Je fais aussi une parenthèse, j'en ai pas encore vu et touché. Donc moi, j'aimerais beaucoup... il y a des entreprises maintenant en France, j'aimerais beaucoup visiter une usine et voir des modèles. C'est clair que ça va aussi m'aider à avancer dans mes recherches, parce que je parle aussi à partir des offres commerciales et de gens qui en ont vu. Mais voilà. Donc il y a cet horizon de la poupée qui a une meilleure conversation et qui a un feedback. Et il y a l'horizon dont vous parlez, qui est effectivement... la réalité virtuelle, avec des casques de réalité virtuelle. Donc ça, oui, c'est extrêmement présent. Après, je sais qu'à l'époque, c'était plutôt Anthony qui s'était penché sur la question quand on y avait réfléchi, et où il disait qu'il y avait de sérieuses limites, notamment sur la question de la représentation des mains, c'est-à-dire que la question de l'illusion n'était pas hyper en place. Mais au final, la question sur la VR est un peu la même que sur les sexbots, c'est-à-dire est-ce qu'on équipe un dildo avec de la VR, est-ce que vraiment on doit faire du réalisme? Voilà, est-ce qu'une réalité virtuelle, forcément, elle doit être en totale symbiose, enfin, ou en, dans un effort de reproduction de, du monde tel qu'on le vit, ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres choses? Alors là, je ne sais pas, moi, des formes abstraites, des choses qui créent des sensations, de la ASMR, que sais-je, mais il y a sans doute d'autres choses à faire avec ces casques-là. Pour l'heure, bah, ça rejoint tout ce qui a été peut-être dit avant, c'est-à-dire on va être dans l'idée d'augmenter la relation avec l'épouse, enfin, ou la partenaire parfaite. Voilà. Mais je m'y pencherai par contre, parce que c'est vrai que c'est en train de devenir un sujet.
Vous posez la question, enfin, vous aviez donné l'exemple apparemment de dolls qui avaient des formes d'animaux. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été faites à part les formes de femmes et d'hommes ou pas tellement?
Alors, je me suis un peu emballée parce qu'en fait, il n'y a pas, à ma connaissance, de sex dolls qui ont vraiment la forme d'animaux. Par contre, quand je vous ai montré tout à l'heure les slides avec les elfes et les personnages de fantasy, je pensais à ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des dolls qui, parce qu'elles empruntent à des imaginaires d'hybrides, elfiques ou autres, on va dire races entre guillemets, fictives de SF, sont un peu animalisées. Donc avec, je sais pas, des petits nez de fouine ou que sais-je, voilà. Mais par contre, vraiment, une sex doll qui aurait une apparence d'animal, donc là, bah, c'est encore une autre question, hein. C'est vraiment la zoophilie qui, bon, aussi pose problème. Enfin, donc, j'en ai pas vu, voilà. Ça veut pas dire que ça existe pas. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, votre question me permet de faire une précision. C'est aussi, c'est très compliqué de comprendre les offres de ces sites, de ces entreprises. Il y a une offre pléthorique et il n'y a pas beaucoup de sites qui distribuent en leur nom propre, à part vraiment les grosses marques. Donc là, ce qui est apparu, et notamment en France, ça pareil, ça n'existait pas il y a 5 ans, c'est vraiment des sites de dolls qui proposent mais des dizaines de marques qui viennent du monde entier. Donc, il y a une offre, mais vraiment, moi j'ai eu beaucoup de mal. D'ailleurs, je ne peux pas faire la liste de toutes les dolls. Moi, je fais la liste des choses qui se rapprochent le plus de dolls interactives. Mais si je dois faire le benchmark de tout ce qui existe en dolls, mais c'est infini. Il y a même des sex dolls qui ressemblent aux personnages de films de James Cameron. Là, Avatar. Ouais, voilà, Avatar, merci. Et on va sans doute voir de plus en plus ces choses-là. Donc, c'est ça que je voulais dire par animaliser. Enfin. Voilà, c'est-à-dire que c'est des personnages anthropomorphes qui empruntent des caractéristiques à des races non existantes. Donc en ça, ils se rapprochent de l'animal. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de chien robot sexuel pour l'heure, à ma connaissance. Même si, et ça c'est une autre question, il existe de plus en plus des robots de compagnie qui sont zoomorphes. Et on peut probablement engager du sexe avec ces robots. Enfin, je veux dire, il y a probablement des pratiques qui existent. Enfin, voilà. Je ne sais plus quel est le numéro de cette règle. Si ça existe sur Internet, ça existe en porno. Enfin, voilà. Mais si l'objet existe, il y a probablement un usage sexuel de l'objet. Voilà. À creuser, mais ça pose sans doute des questions qui ne sont pas les mêmes, mais qui croisent un petit peu les questions sur la pédophilie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'il est éthique aussi de produire comme robots avec lesquels on interagit toujours. Merci à nouveau et si vous voulez qu'on se croise, apparemment je vais en dédicace tout de suite à la librairie et sinon sur les réseaux s'il y a des questions, des retours, avec plaisir.